Bah, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, bah, d'abord, je voudrais remercier M. Hubert de la confiance dont il m'a fait part, puisqu'il ne m'avait jamais vu avant, donc l'esprit l'a bien guidé. Et avant de vous parler un petit peu de certaines choses, je voudrais d'abord dire que j'ai vraiment été déjà honoré de pouvoir intervenir sur la journée d'hier. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que je suis un peu faillot, mais je trouve vraiment que votre église est très agréable. Les plus anciens, je ne sais pas. On va voir ça. Ils sont bien aussi ? Bon, je vous fais confiance. Mais en tout cas, pour les jeunes, vraiment, j'ai été agréablement surpris par le dynamisme de la plupart d'entre vous. Il y a vraiment un énorme potentiel, en tout cas ici dans cette église, au niveau de la jeunesse. Vous pouvez les applaudir. Voilà, parce que comme je leur disais hier, c'est eux aussi la clé du futur, c'est eux aussi la suite. Je suis aussi la suite, hein, j'ai eu 28 ans. Mais voilà, c'est... Et vraiment, ce matin, j'ai été aussi particulièrement surpris par le moment de louange. Je voudrais aussi vraiment encourager l'équipe qui a l'idée. Cette louange, c'est vraiment passé quelque chose. Et vraiment, là, en tout cas pour ma part, la présence de Dieu était palpable. Et ça m'a vraiment reboosté pour cette semaine. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à développer, en tout cas vers l'extérieur, vu le potentiel qu'il y a ici. Donc voilà, comme dit Kevin, je m'appelle Jérémy. J'ai 28 ans, je l'ai rencontré donc à l'école biblique l'année dernière. Ça nous a permis de sympathiser et puis c'est vraiment un clin d'œil du Seigneur qu'aujourd'hui je puisse être là pour le dire, après tout ce qu'on a vécu là-bas. Donc effectivement, j'avais à cœur de cette semaine de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Mais finalement, j'ai pas réussi à dormir tranquille avec ce message pour ce matin, donc j'ai dû tout changer. Voilà. Peut-être qu'il n'allait pas vous nourrir finalement. Mais d'un côté, je suis rassuré, parce que ça montre que Dieu me parle encore. Il aurait pu me laisser aller me faire bobo avec ce message. Et il n'était pas mauvais, je ne comptais pas dire des bêtises, mais ce n'était peut-être pas approprié aujourd'hui. Mais donc, je suis reparti sur quelque chose de plus classique, simplement témoigner en quelques mots de ce que Dieu a fait dans ma vie et comment j'ai fait pour atterrir ici. Voilà. Donc, simplement, tout a commencé à la naissance. Ouais, c'est bien. Moi aussi, ça me fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, mes parents, ça les a pas fait extrêmement rire. La chose était la suivante. J'étais, bon, comme certains d'entre nous, avec des complications, pas destiné à venir ici, simplement parce que ma mère a eu des problèmes avec la grossesse. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée face à des médecins, puisqu'il n'y avait plus le choix. Donc elle a décidé d'en rencontrer un seul pour savoir un peu ce qui se passait. Et le premier médecin lui a dit « Oui, effectivement, vous êtes bien enceinte, l'œuf est là, on le voit, mais il est mort. Il faut donc, pour éviter les complications, qu'on l'enlève. Donc voilà, ma mère choquée et tout ça. » Elle n'arrive pas à s'en remettre, surtout que j'étais le premier. Donc on sait tous pour certains que le premier, c'est pas toujours évident. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette visite, il lui a remis un papier avec son tampon et sa signature pour aller à l'hôpital pour le faire enlever. Donc le papier était là, ma mère était avec dans la main. Et elle rentre chez moi avec ça. Et donc avec mon père n'était pas croyant à l'époque, que ma mère seule l'était. Donc elle n'a pas voulu y croire finalement et puis elle a dit « bon, je vais aller chercher un second avis ». Elle est partie voir un autre médecin et le médecin lui a dit « madame, vous n'êtes pas enceinte ». Ouais, voilà, j'ai pas fait médecine, je sais même pas comment c'est possible d'avoir un discours comme celui-ci. Elle arrive, finalement, imaginez le truc, vous arrivez chez un autre médecin avec un papier comme quoi il faut faire enlever le bébé et il vous dit « mais vous n'êtes pas enceinte ». Je veux dire, il faudrait qu'ils se mettent d'accord, je sais pas s'ils ont fait les mêmes études ou quoi. Bref, en tout cas, voilà, super stupéfait pour tout le monde. Et Mais on voyait que la grossesse continuait, mais on n'avait aucune conviction que l'œuf était là. J'ai appris par la suite que, en fait, le monsieur qui a dit que ma mère n'était pas enceinte, j'étais caché. Mais ils n'ont jamais su expliquer où j'étais dans le ventre. Voilà, j'en sais rien où j'étais, ce que je faisais, mais du coup, personne ne m'a vu. Et ma mère est restée avec ce papier. J'aurais aimé rencontrer finalement ce médecin qui a dit faut aller curer tout ça puisque l'œuf est mort. Il est voir qu'aujourd'hui que je sois là. Mais bon, je ne sais pas qui c'est. Et donc ma mère me dit souvent aujourd'hui, tu vois, dès que t'es arrivé, tu nous causais déjà des problèmes. Ouais, parce que c'était loin d'être les derniers problèmes que j'ai causés chez moi, je t'assure. Ouh, on peut écrire un beau teint. Donc ce qui s'est passé, c'est que il y a comme peut-être c'était un petit clin d'œil déjà pour effectivement dire que rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Lui, il avait décidé qu'aujourd'hui j'aurais ce micro et que je vous raconterais ça, et puis rien n'a pu l'empêcher de le faire. Ça, c'est une première chose. Mais le deuxième clin d'œil que j'ai apprécié, c'est que ça a permis quand même que mon père se convertisse. Voilà. Et donc il avait 22 ans à l'époque, parce que mes parents étaient très jeunes. Ma mère avait 19 ou 20 ans et mon père 21. Et mon père, il entendait parler de Dieu par le biais de ma mère, mais il s'en fichait. Il préférait miser sur le bon cheval et puis boire le petit pastis qui va bien à cette époque-là. Et il a dit, bon, bah, tu sais quoi, ton Dieu, bah, si ton Dieu, il existe, bah, qui me donne mon fils. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Et sur le coup, à partir de ce moment-là, il a décidé d'accepter de venir dans une réunion d'évangélisation classique, dans des chapiteaux. Et il a donné sa vie à ce moment-là, il a tout changé. Et aujourd'hui, il est pasteur d'une église à Nemours, dans le 77, voilà, avec une belle assemblée. Et puis, comme quoi, il ne faut pas se fier au début, ce qui compte, c'est la fin. Donc voilà. Donc j'arrive, je déboule chez moi, et puis là, bon, bah, je reçois une éducation, on va dire, chrétienne classique. J'étais à l'école du dimanche, j'ai appris David et Goliath, j'ai appris Adam et Ève. Ève qui nous a mis tous dans une galère en croquant dans la pomme. Bon. Ouais, c'est dur, mais c'est un petit peu vrai. Hein. Mais là, je suis sûr qu'on aurait tous croqué dans la pomme. On n'était pas mieux qu'elle. Et donc voilà, sage. Non, même franchement, sage, c'est un grand mot parce que même à l'école dimanche, j'étais toujours au coin, donc ça commençait aussi. Mais voilà, j'y allais tous les dimanches, un peu pour suivre mes parents. Puis plus le temps passait, et plus vraiment j'y allais pour suivre mes parents. Et là, c'est à ce moment-là que les premiers problèmes arrivent. Donc, pour être honnête, je suis arrivé à l'âge de 16 ans, et pour faire plaisir à ma mère, je me suis baptisé. Parce que, oui, ça arrive, parce qu'un jour, ça commençait à parler de baptême, les jeunes, ce serait bien. J'ai été pris d'une émotion, on ne m'a pas forcément bien aiguillé à ce moment-là, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Et j'ai dit, ok, je me baptise. C'est rien, on va y aller, on va apprendre leurs petites études. Veux-tu être mon disciple? Vous connaissez ce petit bouquin jaune? Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit jeune dans mon église et c'est moi qui dois lui faire passer, veux-tu être mon disciple? Alors, je vais pouvoir vérifier tout ce qu'on ne m'a pas fait vérifier à l'époque. Comme ça, lui, il restera sage. Et c'est des petits clins d'œil de Dieu, ça aussi. Et donc, ce qui s'est passé, je me suis baptisé. Et puis là, ça a été... Les premiers problèmes sont apparus. Surtout un problème de fréquentation. Parce que je vis à Dijon aujourd'hui, mais à la base, je suis originaire du 91. Et en fait, je vivais au cœur d'un quartier pas trop bien fréquenté. Je pense que vous connaissez ça. Il y en a partout autour de chez vous. Et donc, je suis resté là-bas jusqu'à 23 ans. On va voir ça par la suite, c'est faire court. Ce que je vais faire chaque année comme ça. Ah, je plaisante. Et donc, les premières mauvaises fréquentations commençaient à arriver. C'était toute une ambiance parce que l'école primaire, le collège, le lycée, tout était au milieu du quartier. Je ne suis jamais sorti de ce quartier-là. Donc forcément, formaté par l'environnement. Et je sais, je peux comprendre certains d'entre vous si c'est le cas. Ce n'est pas du tout évident de rester intègre dans sa marche avec le Seigneur quand l'environnement ne s'y prête pas forcément. Et bah, ma foi, à ce moment-là, je me suis laissé attirer. J'étais le seul chrétien au milieu de tous, avec ma petite sœur. Mais bon, ma petite sœur, Ouais, elle est restée sage, mais c'était pas non plus une grande influence pour moi à cette époque. Et donc, effectivement, à partir de 16 ans, j'ai commencé un petit peu à me détacher de l'église, à me détacher de l'assemblée, du groupe de jeunes de là-bas. C'est vrai que c'est dur, mais pas grand monde à ce moment-là s'est soucié de mon parcours. Pas grand monde est venu me chercher dehors, savoir ce qui n'allait pas. Donc, les jeunes, vous avez des bons leaders qui vous surveillent, qui vous surveillent, entre guillemets. Ils ne sont pas là avec la caméra pour savoir « je t'ai vu, je t'ai entendu ». Mais en tout cas, c'est une bonne chose et c'est important en tout cas. Je pense que c'est le rôle aussi d'un chrétien quand on voit son prochain pas forcément en bon état, d'aller se pencher là-dessus et puis de voir ce qui peut se passer. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais une phrase, une intention, un peu comme j'ai expliqué hier soir, ça peut changer tout. Et donc, j'ai erré un peu pendant ces moments-là. J'ai échoué au bac à 18 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école. Et comme dans toute cette jeunesse, justement, à partir de 16 ans, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter des belles baskets et d'être comme les copains, de pouvoir m'apparenter à eux et puis être complètement intégré dans le quartier. Parce que c'est aussi pareil, vous voyez, quand faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de différences culturelles dans les quartiers. Et quand vous êtes blanc, vous partez quand même avec un léger handicap. Ouais, ce que je pense que vous voyez un peu où on en revient. Après, attention, eux, en France, ils partent encore avec un plus gros handicap. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, dans le quartier, c'est pas évident quand on est blanc, parce que peut-être qu'il y a un esprit communautaire, un peu comme beaucoup de blancs le sont aussi envers eux, de manière nationale, de toute manière. Et donc, il a fallu faire sa place. Et quand vous voulez faire votre place dans un environnement comme ça, eh ben, faut prouver. Il y a des choses à prouver, il y a des choses à démontrer, et elles sont pas jolies. Je vais pas m'étendre sur le nombre de bêtises que j'ai faites et non plus la typologie, mais effectivement, j'étais quelqu'un de très mauvais. Je pense que j'avais fait un calcul une fois pour rigoler, même si c'est pas drôle. Je pense que tout assemblé, une bonne trentaine ou une bonne quarantaine d'années de prison pour chaque délit assemblé, ça aurait été la justice humaine en tout cas. Heureusement, ça n'a pas été celle de Dieu. Et vraiment, Dieu m'a gardé à chaque endroit, à chaque fois que j'étais dans des pétrins inimaginables. J'ai pas su comprendre pourquoi. Tout au fond, j'entendais cette petite voix qui me disait « Jérémy, je suis toujours là. » Ne va pas trop loin, pour l'instant je te garde, mais n'abuse pas de la grâce, n'abuse pas. Je l'entendais, le n'abuse pas, mais fallait que j'abuse. Et je savais pas, mais à ce moment-là, j'étais loin des vraies souffrances et j'étais loin des vraies complications qui arrivaient par la suite. Donc il y a quand même un moment donné où je me suis ressaisi. J'en avais marre de galérer dehors, j'en avais marre de pas avancer avec les mêmes personnes. Et je me suis dit, tout ça, ça mène à rien. On va essayer de changer, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc à l'époque, j'ai passé mon bac en candidat libre, parce que je l'avais raté. Puis 4 ans après, je me suis dit, ça va peut-être m'arranger dans la vie si je retourne le chercher, celui-ci. Parce que vu la tête de l'économie du pays, si j'ai pas au moins un petit bagage, à part faire des cheeseburgers ou nettoyer les rues, j'allais pas faire grand-chose. Attention, je critique pas faire les cheeseburgers, hein, j'en ai fait quand j'étais en terminale, ça peut dépanner, mais je veux dire, c'est dommage de faire carrière dans ce sens-là, il y a des choses plus intéressantes à voir. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, encore un miracle, Dieu m'a dit, tiens, je te passe ton bac, donc je ne vais pas développer sur le bac, mais pour ceux qui connaissent un peu le système, j'avais 72 points à rattraper au rattrapage, je ne sais même pas comment j'allais faire pour rattraper 72 points, j'avais 8,02, je suis passé pile poil, je me souviendrai toujours, je suis monté à Paris pour voir les résultats, j'ai dit, waouh, j'ai le bac, mais pas trop encore, mais au moins, quand vous êtes au rattrapage, vous êtes comme, vous savez, c'est pas fait, mais c'est possible. Donc, petit espoir, je rentre chez moi, je suis au rattrapage, vous faites les 400 pas, vous dites, mais c'est en plus ce bac qui peut me changer. À l'époque, j'étais conducteur d'engin dans une déchetterie. Je triais toutes les poubelles de mon quartier. Et là aussi, il y a des petits clins d'œil. On va dire, ah là, tu veux changer, tu as vécu dans ce quartier, tu as fait des bêtises partout, bah, tu vas nettoyer toutes les poubelles de ton quartier. Et là, je savais tout ce que les gens mangeaient. Et franchement, il y en a, ils ont des goûts bizarres. Donc, j'ai vu tout, des rats, des chats morts, des, des hôtels. Ah ben oui, ben oui, mais dans les poubelles, c'est ça. Hein, des odeurs burlesques. C'était vraiment. Ça a été long. Donc ça a duré un an et demi. Et figurez-vous que mon bac en candidat libre, je l'ai passé pendant que j'étais conducteur d'engin. Parce que, heureusement, Dieu m'a béni, il m'a fait descendre des cabines, des poubelles, et il m'a fait passer un permis d'engin. Donc, je conduisais mon tracteur toute la journée. Je chargeais les lignes, voilà, pour être plus précis. Et je faisais ma petite vie. Et ce qui se passait, pendant cette année, je révisais mes cours. Oh, le menteur. Non, j'ai révisé que les deux dernières semaines. Il était là, le miracle. J'arrivais pas à me concentrer. Quand vous travaillez, que c'est dans une ambiance de poubelle. Je veux dire. Franchement, vous arrivez avec votre cahier le matin, vous êtes motivé. En plus, à un moment, je faisais les 2-8, je me levais à 4h du matin. Alors, quand vous arrivez à 4h, je me couchais à minuit et quelques, après des tas de substances. Alors, pour vous dire, le matin, quand l'odeur vous arrivait dans la tête, oh, laissez-moi tranquille, vous vous mettiez une cafetière et vous ne bougez plus. Et faut que je sois un peu familier là, faut que je fasse gaffe quand même, non? Vous vous mettiez une cafetière. Pardon. Mais ça aussi, c'est une guérison, j'ai décidé d'être moi-même. Et ce qui se passait, donc voilà, au rattrapage, les deux dernières semaines, j'ouvre mes cahiers en tremblote. Je me dis, Seigneur, là, ça, quelque chose peut se passer. Vous savez, hein, quand vous êtes à deux doigts d'avoir l'examen, mais c'est pas fait. Vous savez comment ça remonte à l'intérieur pour ceux qui ont été à l'école. Et du coup, j'arrive devant une dame. J'avais deux épreuves. Je vous fais ça rapidement. J'avais deux épreuves. Une dame, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? T'es un petit peu âgé? Comment ça se fait que tu te retrouves là? Je dis, voilà, je suis en candidat libre. La dame, franchement, mais vraiment, qui m'a béni totalement. Là, j'ai vu que c'était pas pour rien que j'étais tombé face à elle. J'avais deux épreuves à rattraper, les deux où je m'étais effondré, et les plus gros coefs, bien sûr. Et devant elle, elle me dit, ah, mais c'est vraiment courageux de ta part et tout. Elle me dit, bon, bah tiens, super gentil, super agréable. De toute façon, toute ma vie, c'est que des femmes qui m'ont sorti de mes problèmes. Je vous assure, à chaque fois que je venais dans un problème, il y a une femme, elle me disait, elle me prenait comme si j'étais son fils, elle me disait, je veux pas te laisser dans cette misère. Et à chaque fois, je m'en suis sorti. Et bref, cette dame, elle me donne ma copie, elle me dit, bon voilà, tu me prépares ça à l'oral et puis tu reviens. Et je me prépare, tac, je vois, je connaissais tout. Oh là là, je dis, oh, c'est. Vous savez, quand vous connaissez tout, vous voyez l'adrénaline qui monte. Je dis, comment je vais préparer ça? Je dis, ouais, déjà, j'étais content et tout. Bon, j'étais pas chrétien encore, mais je parlais quand même des fois à Dieu. Et je lui lâchais des petits merci à droite à gauche quand même de temps en temps. Au fond de mon cœur, ça bougeait quand même. Et ce qui s'est passé, je l'ai fait, j'ai tout réussi, j'ai été content. Voilà, tac, je ressors. Deuxième épreuve. Alors là, je retombe sur un gars super froid. Gestion informatique. Il me regarde, assis-toi. Je m'assois. Alors, tiens, tu vas faire ça. Des lunettes, vachement sérieux. Il me regardait vraiment d'un air de Mozart. Je l'ai inventé celui-là, de Mozart. Je pars avec sa feuille. Je regarde. Je connaissais rien. Je connaissais rien du tout. De chez rien du tout. Pas une réponse. J'attends. Là, je dis, ça y est, mon bac, il est foutu. Je le voyais s'envoler. Je dis, c'est fini. Salut. Donc je reviens devant lui, déprimé. Je connais rien. Il me dit rien de rien. Je lui dis rien. Avec un air, vous savez, où vous essayez de gratter des points par en jouant la carte de la tristesse, de l'émotion. Genre, t'as vu, donne-moi 2 points. Je suis gentil, je suis venu. C'est très bien, tu peux changer ma vie aujourd'hui. Ça se fait pas. Et il m'a dit, bon ouais, ça m'embête de te laisser partir comme ça, je vais quand même essayer. Bon, est-ce que tu connais BO2 carré? Non. Est-ce que tu connais non. Et comment tu veux que je te donne des points, mon petit? Tu connais rien? Je connais rien. Je suis sorti comme ça. Là, ça veut dire vous partez vraiment entre un, vous avez réussi, l'autre, vous n'avez pas réussi. Mais vous devez récupérer 72 points. Ouais, magie. Et j'arrive. On savait le lendemain, je crois, c'est un truc comme ça, après le rattrapage, j'avais eu 72 points précisément. C'était coefficient 8, que je vous dise pas de bêtises, ça faisait 8 fois 7, 72, j'avais eu 6, et la dame m'avait mis 15. Elle m'avait donné, ce qu'elle m'avait demandé, combien de points il te faut? 72. Elle m'a regardé comme ça. Mais en sortant, elle savait qu'elle m'avait donné mon bac. Oh, waouh! Et vous savez que c'est dingue parce que. Ce petit nombre de points qui arrive pile poil, 0,00, Et ben, c'est ça qui, je vous assure, de cause à effet, qui fait qu'aujourd'hui je suis là en train de le raconter. Parce que finalement, avec ce bac, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai voulu passer un BTS. Je suis parti à Dijon pour le passer par le biais d'une formation. Il n'y avait que là-bas que c'était possible. Et notez, je n'étais toujours pas chrétien. Et donc j'y vais dans ma classe, tac, 11 personnes. J'arrive à Dijon, j'ai dit, j'avais 23 ans. J'ai dit, je vais en profiter, je vais changer de vie, nouveau décor, nouvelle ville, nouvelle vie. Allez. Mais en vérité, tout au fond de moi, des choses n'étaient pas réglées et elles allaient me rattraper bientôt. Et je suis jeté dans une petite classe de 11 personnes. Voilà, que je connaissais pas. J'étais le plus jeune, il y avait un peu de tous les âges. Et vers le début, la première semaine, il y en a un dans le couloir, il se met à siffler un chant qu'on chante le dimanche matin. Et que je me rappelais, quand j'étais petit, c'était un truc genre quand l'Esprit de Dieu habite. Il chantait un truc comme ça dans le couloir. Je dis, waouh, truc de dingue. Je dis, c'est quoi la chanson que tu chantes et tout. Après, il commence à me dire, ouais, je suis protestant, évangélique. Je dis, waouh, ouais, tu sais, moi aussi, quand j'étais jeune, j'y étais, tout ça. Et tout de suite, il y a un contact qui s'est développé avec lui. Et il a pu me présenter son église. Il m'a ramené une fois de temps en temps. Bon, il m'a traîné plutôt une fois de temps en temps. Et puis, j'ai tenté de m'accrocher, mais je ne l'ai pas vraiment fait. Aucune reconnaissance finalement à ce que Dieu était en train de faire dans ma vie. Même si je le savais au fond, je préférais encore m'amuser moi-même. Je préférais encore penser à mes propres intérêts. Donc là-bas, ça a été très rapide. Il y avait une fille avec qui j'ai passé 7 ans en fait de ma vie avant de me marier. 7 ans, donc à ce moment-là, voilà, tout ce qu'on connaît, concubinage, j'ai la vie basique de quelqu'un du monde, quoi, sans surprise. Je l'ai fait venir à Dijon, on a pris notre appart là-bas. Donc là-bas, je menais ma petite vie. Donc toujours la même finalement. Je n'avais pas changé. Comme quoi, finalement, quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé, certes, les gens peuvent exercer une mauvaise influence sur nous, être des mauvaises fréquentations, mais ce n'est pas le fait de séparer d'eux qui va régler le problème. Parce que là où on va, on en rencontrera d'autres personnes qui tenteront encore de nous faire descendre dans les mauvaises voies, d'autres personnes qui nous influenceront dans le mauvais sens. Et donc, c'était reparti. Et des gens peut-être mieux habillés, effectivement plus sociables, moins agressifs que d'où je venais, mais pas des meilleures fréquentations quand même. Et ils m'ont attiré dans les mêmes problèmes, la boisson, la fumette, les sorties en boîte, les filles, voilà. Donc après, je suis retombé dans ce système-là finalement à Dijon, mais en plus grand, en plus mieux, en plus mieux, ça se dit pas, en mieux. Finalement, j'étais. Et là, à un moment donné, enfin encore, c'était avant le drame, Dieu a voulu me faire comprendre quelque chose. Il a dit, Jérémy, je veux bien te donner de la grâce, mais toi, je te tends la main, tu m'arraches le bras. Et à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça. Je veux bien être sympa, mais faut pas se moquer de moi non plus. Et j'étais rentré, je pense, dans une dimension de ma vie où ça devenait de la moquerie en vis-à-vis de lui. Parce que il m'avait sorti d'un tas de misère et je l'avais jamais vraiment remercié. Donc un soir, pour faire court, je change d'appartement, je fais la fête avec mes voisins, je bois un bon coup et on se retrouve, il est minuit, il n'y a plus d'alcool. Alors c'était trop la fête, vous voyez, après 4, on a forcément envie du 5e. Et donc je commence à m'ambiancer tout seul. On y va, on prend la voiture. J'étais à peu près à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Je prends la voiture, on monte à 4 dedans. J'avais 4 verres de whisky, puis j'avais fumé un peu. Et là, ça c'est quelque chose qui me met des frissons dans le dos à chaque fois que je peux le raconter. J'étais dans des routes de campagne à 140 km/h. La personne derrière n'était pas attachée. Et là, à 140 km/h, je rate un virage. Je rentre pleine face dans un mur. Pleine face. Quand je vous dis un pleine face, c'est vous foncez à 140 tout droit. La voiture a fait des tonneaux frontales, pas des tonneaux sur les côtés, vous savez, des tonneaux comme des saltos avant. Elle a fait un tonneau normal. Elle a fait 2 ou 3 saltos avant. Elle est tombée peut-être 50 ou entre 50 et 100 mètres plus loin, tout droit, toute brisée. Je sais rien de ce qui s'est passé. Je me rappelle juste avoir vu, pam, c'était le silence complet dans la voiture quand on a mangé le mur. Il n'y a personne qui a dit attention, rien du tout. Comme si j'avais prévenu 10 minutes avant, en fait, les gars, ce soir, je mange un mur, hein, vous inquiétez pas. Là, il faut mettre un petit peu d'humour, je suis vivant. Et tout droit dans le mur, personne ne me dit rien, et pam. Dans la voiture, je suis inconscient, l'autre derrière inconscient, mon collègue me réveille, il me secoue, je vois, je dis, waouh, on est encore vivant. Là, vous savez, ça a été quoi mon réflexe? Hein? Non. Même pas. Mon réflexe, c'était de dire vite, il y a la police qui arrive. Direct. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors j'ai fait waouh, on s'est mangé le mur, je suis complètement bourré, je dis faut qu'on s'étale, s'il y a accident, machin, je suis mort. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pris la clé, j'ai voulu redémarrer, j'ai levé la tête, tout le moteur était sorti, il était à 20 mètres de l'autre côté de la rue. Le moteur entier, tout propre, tout vide, tout découpé. J'ai dit ça, waouh, truc de dingue. Et mon pote il me dit mais tu crois que tu vas démarrer quoi? Moi j'étais là quoi comme ça? Je démarrais quoi? Il me dit mais regarde là-bas. En plus il me dit ça avec un gros filet de sang comme ça. Ouais vraiment la scène c'est ouf. Ça se passe à 40 km. Mais comme vous êtes un petit peu ivre, vous le voyez pas pareil. Il y a une adrénaline étrange que vous n'avez pas vraiment conscience de ce qui se passe. Il me dit alors tu vas démarrer quoi? Je dis pourquoi? Il me dit bah regarde de l'autre côté, je vois le moteur. Je dis waouh. Et après derrière il me dit le nom du gars qui est derrière moi. Je dis waouh. Je me retourne. Je le vois, il bougeait pas. Il était comme ça avec pareil grand filet de sang comme ça sur son visage et il bougeait pas. Là, vous vous dites tout de suite, j'ai tué quelqu'un. Là, la montée d'adrénaline, elle est... Et là, je vais être pareil. J'ai beau être ivre, je pense à 40 km heure, fois plus même. Je me voyais déjà derrière les barreaux avec tué, alcoolémie, machin, truc, dans le journal, le bien public, journal quotidien. Je me voyais déjà dans tout, partout. Je dis, je suis mort, mon père, il va me tuer. En plus, c'est sa voiture. Je pensais à tout. Je vais perdre mon permis, mon boulot. J'étais parti très loin. Je sors vite de la voiture. Je rentre, j'ouvre la porte, je le secoue. Il me fait $1 million. J'étais content. J'étais content. Je pars et tout. Et là, mon corps, il fait blap, blap, pam, je m'écroule. Inconscient. D'accord? Parce que là, forcément, il y a le retour du choc et tout. Moi, j'ai appris ça après. Hein. C'est médecins. Ils disent pas que des bêtises non plus, des fois. Je suis allongé, la tête complètement ouverte, plein de sang, je suis par terre. Et là, je vous assure, à ce moment-là, je sens quelque chose de léger. Je sens quelque chose de... Je me sentais partir. Vraiment, je me sentais partir. Cette sensation, elle est incroyable. J'espère que personne ne va la vivre. Enfin, si, sauf quand ce sera le bon moment. Mais en tout cas, à ce moment-là, je sentais une paix. Et je me souviens avoir dit à Dieu, ah, là où j'en suis. Parce que là, c'est la... Voilà. Mes potes, ils étaient par terre aussi, toute la voiture complètement défoncée, il était minuit et demi, on était au milieu de la campagne, perdu. C'était la fin, je me disais, je m'en fiche, Seigneur, vas-y, prends-moi, c'est le moment. Donc je commence à lui parler comme ça, je dis, ouais, ma vie jusqu'aujourd'hui, finalement, il n'y a rien eu de bon. Je te demande pardon. Là, je me suis repenti, je dis, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, et juste, s'il te plaît, vas-y, reprends-moi avec toi. Et je sentais vraiment cette paix qui venait, je me sentais léger. Jusqu'à un moment où je prends une grosse gifle. Bon. Et là, je fais... Oh ah, j'ouvre les yeux et tout. C'était des petits jeunes. Ils s'étaient arrêtés sur la rue. Ils s'étaient arrêtés là devant nous. Ils avaient vu l'accident, tout ça. Ils disaient, monsieur, fermez les yeux. Parlez-nous. Comment tu s'appelles? Parle-nous. Appelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça. Et ils me lâchaient pas. Je disais, non, mais ça va. Vous inquiétez pas. Et hop, je repartais. Ça revenait léger. Et paf, je reprenais une baffe. C'est bon, ok. Et du coup, paf, on va tous, ils appellent les pompiers nous amènent à l'hôpital, machin, finalement on a tous survécu, je me suis juste retrouvé avec une clavicule cassée, 7 points, suture derrière la tête. Et pourquoi? Et Dieu m'a encore un petit clin d'œil, je distribuerai des fois de temps en temps des clins d'œil comme ça, j'en distribue. L'anesthésie ne marchait pas, ouais, donc il m'a dû à vif, là ouais, 7 points de suture, avec mon pote à côté, lui il se faisait recoudre le dos. Ah, aujourd'hui, on a rigolé, c'est ce que c'est. Ouf, merci Seigneur, c'est derrière. Mais ça a été douloureux. Le lendemain, attention, parce que là, c'était que le début des problèmes. Après, il faut aller affronter les conséquences derrière. Elles n'étaient pas drôles. Donc, sur le coup, on m'a pris mon permis. Automatiquement, il a sauté, annulé complètement. Pas le droit de le repasser pendant 6 mois. Heureusement, les amis qui étaient avec moi, personne n'a porté plainte. Parce que la gendarmerie les poussait, ouais, dans le sens, vous vous rendez compte, vous montez avec quelqu'un, il a failli vous enlever la vie, il conduit ivre. Donc heureusement, ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont pas, sinon ça aussi serait fini dans la case prison. Et surtout avec ce qui s'ajoutait derrière, parce que j'étais aussi en sursis de conduite sans permis avant, et puis d'autres histoires. Donc tout ça accumulé, je pense que ça aurait été la fin. Et Dieu m'a encore gardé à ce coup-là. Mais les conséquences, elles ont été pour moi. Et donc, j'ai perdu le permis. Du coup, j'ai été agent immobilier à cette époque. C'était un motif, le permis pouvait être un motif de licenciement. Si vous n'avez pas le permis, vous ne pouvez pas exercer. Donc, j'ai rendu aussi mon travail. Je suis rentré chez moi. À ce moment-là, ça allait mal avec ma petite amie. Et donc, ça arrivait presque à la 7e année. Et en plus, elle m'a rajouté par-dessus. Elle est partie avec un autre garçon. Et donc, je suis rentré chez moi. Je suis retourné en région parisienne, largué, sans boulot, sans permis et ma voiture à la casse, à 26 ans. Là, c'était la fin. J'avais plus envie de rien. J'avais plus envie d'écouter qui que ce soit. Là, j'étais seul. Seul, très très seul. Parce que je suis revenu chez moi, il n'y a pas grand monde qui m'a accueilli, aucun ami qui est venu vers moi. Donc ça aussi, c'est important entre nous de vraiment souder dans les coups durs. Pas un seul ami qui m'a dit « Ouais, je comprends, c'est dur, difficile pour toi, mais t'inquiète, tu vas repartir. » Donc là, pendant un an et demi, j'ai dû me reconstruire seul. Ça a été long, ça a été difficile. Et franchement, à 26 ans, quand vous ne connaissez plus personne de chez vous, parce que ça faisait presque 3-4 ans que j'étais parti, 3 ans, vous n'avez plus rien. Plus rien. J'avais même plus de carte bancaire, j'avais plus de vie. La seule chose que j'avais, c'était un numéro de sécu. Et il ne me servait à rien du tout. Franchement, c'est un numéro de sécu et une chambre de 9 mètres carrés que je partageais avec mon petit frère. Donc attention, après je sais que y a des petits enfants en Iran ou en Thaïlande en ce moment, ils vivent des choses bien plus difficiles que les miennes. J'ai vraiment conscience de ça. Mais en tout cas, la souffrance était vraiment forte à ce moment-là. Et je me souviens souvent les prières que je faisais avant de m'endormir, ce qui m'arrivait de prier quand même. La seule chose pour laquelle je priais, c'était Dieu, franchement, ok, j'ai tout raté, c'est pas grave. On n'a qu'une vie, on a deux vies, une vie sur la terre, une vie dans le ciel. Celle dans le ciel est beaucoup plus importante que celle sur la terre. C'est ah, si tu veux me reprendre maintenant, ça m'arrange. Et je priais le soir, je pleurais dans mon lit tout seul et je disais Seigneur, s'il te plaît, faites que je me réveille pas demain matin. Et je vous assure qu'il m'est arrivé des soirs de faire cette prière, mais avec une telle conviction. J'avais tellement envie le lendemain matin de pas me réveiller et je me réveillais à chaque fois. Et quand je me réveillais, je disais ah non, c'est reparti. Parce qu'après, il y a tout qui remonte d'un coup. Vous vous rappelez tout. Tout revient sur le tapis. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon petit chemin, 26 ans. Je retournais dans le quartier, retour à la case départ. Ça aussi, ça met une vraie aigreur. Vous retrouvez toute l'ambiance, tout l'environnement que vous avez fui. Et vous vous retrouvez là. Et puis, vous retrouvez les mêmes mecs en bas des tours, les mêmes histoires, les mêmes gens. Et puis, bah, je jouais au foot toute la journée. Je calculais même pas mon destin. Je fumais, je buvais, je m'amusais. Alors là, j'avais tout lâché et jusqu'à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça bouillait, ça montait. Je sentais vraiment Dieu là qui me mettait une pression et qui me disait, t'as tout essayé par tes propres moyens, t'as vu chaque chose, t'as vu les conséquences de chaque chose. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour toi. Et je l'entendais, ça devenait de plus en plus fort. Ça a duré 9 mois et vers la fin, j'avais réussi à avoir une date pour le permis en me battant un peu. Parce qu'il a fallu que je repasse le code, le permis, alors je ne vous raconte pas au code et tout, les histoires, j'avais tout oublié, ça a duré longtemps. Et du coup, cet ami en question de Dijon que j'avais rencontré, un jour m'appelait, il me dit « Alors, c'est quand que tu reviens sur Dijon et tout ? T'avais quand même bien aimé, machin, cette ville, viens. » Et ça me trottait, je dis « Allez, effectivement, je vais peut-être retourner, mais d'abord, il faut que je me refasse une santé. » Donc, j'ai passé le permis, je l'ai re-eu, je suis franchement soulagé. J'ai trouvé une petite voiture et il y avait une erreur, l'État il me devait de l'argent, je sais même pas comment. Un jour je me réveille, le lendemain, 2 jours après, j'avais 4000 euros. Je savais même pas, la CAF qui m'envoie une lettre, qui me dit oui, vous aviez le droit à ce temps, depuis autant de temps, mais on s'est trompé dans le calcul, donnez 4000 euros. Je me retrouve déjà avec 4000 euros dans ma voiture, avec mon permis, ma petite funk. Là, je commence à être refait déjà. Donc, j'avançais, j'y allais, Seigneur, c'est reparti, je vais te redonner une chance. À ce moment-là, j'avais décidé de ne plus toucher au shit, de ne plus abuser dans l'alcool. Et j'ai tout laissé tomber, effectivement. J'ai été débarrassé de ça à ce moment-là. C'était mon premier clin d'œil au Seigneur pour dire, voilà, je vais changer de vie parce que ce truc-là, ça fait que m'envenimer les pensées et je m'en sors jamais. Et je ne veux plus jamais retoucher à ça. Je suis arrivé à Dijon. Bah, figurez-vous qu'au bout de 3 mois, j'avais trouvé un appart. J'avais retrouvé un boulot dans une des meilleures agences immobilières à Dijon, alors que j'avais pas travaillé depuis 2 ans. J'étais Century 21, bien au milieu de la ville, qui marche bien. Je me suis retrouvé à être accepté là-dedans, je ne sais même pas comment. Et j'ai rencontré ma femme. Et ça s'est passé en 3 mois. Et là, imaginez ce qui vous passe par la tête. Vous êtes avec votre fiancé dans la voiture, dans votre voiture, en ville, de l'argent sur le compte, un CDI, un petit appartement avec mon petit écran plat. Ça, en l'espace de quoi? De 3-4 mois. Juste au moment où j'ai dit, ok Seigneur, je te donne ta chance. Ah non, je te laisse. Quand c'est moi qui est au volant, je vais dans le mur à 140, je vais te laisser le prendre. Prends-le et toi, amène-moi où tu vas, je me mets passage à côté de toi, je te suis. Et je n'ai pas été déçu. Et là, la première baffe que j'ai mangée, c'était vraiment de saisir la réelle définition du mot grâce. Mais vraiment d'aller dans la profondeur de ce mot. Parce que ça n'a pas été non plus super évident. Je veux dire, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'un jour on dit « Seigneur, je te donne ma vie » que le lendemain, tout est simple. Il y a quelqu'un à qui ça déplaît et quelqu'un qui veut vous revoir dans votre vie d'avant et qui ne s'empêche pas de venir vous le montrer tous les jours. Donc, il y a eu vraiment aussi encore une liste d'attaques à ces moments-là pour que je retombe dans mes travers. Mais vraiment, de comprendre cette grâce, quand je faisais la liste du nombre de galères dans lesquelles Dieu est venu me chercher, le nombre d'histoires de lesquelles il m'a pardonné, et que malgré tout ça, il a quand même prévu quelque chose pour moi, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, franchement, c'est encore plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et là, j'ai appris une nouvelle définition réelle de la grâce. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, voilà, celui qui avait changé tout ça, je voulais en apprendre un peu plus sur lui. Donc à ce moment-là, je sais pas, j'ai dit tiens, école biblique. Il y avait un ancien étudiant qui est dans mon église qui l'avait faite, qui m'avait dit que du bien de cette église, de cette école, puis de cette église aussi, puisqu'il y a une église là-bas. Et puis j'ai décidé de l'écouter, d'y aller, faire l'école. C'est là que j'ai pu rencontrer Kevin. Donc, et vraiment, effectivement, là, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de moi, il y avait encore beaucoup de choses pas réglées. C'est comme, pardonnez-moi, je me souviens plus qui a dit ça par rapport à. Quand plus la lumière de Dieu s'approche de nous, plus les défauts apparaissent. C'est vous, Charles, c'est ça? Yves, pardon. Et c'est étrange parce que mon mentor de là-bas, c'est l'un des tout premiers versets qu'il m'a donné quand je suis arrivé. C'était Jean 3:30. C'était « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et ça, j'ai dit, pourquoi mon mentor, il me donne ça et tout. Donc du coup, je l'ai pris, je l'ai affiché dans ma chambre pendant un temps et je réfléchissais là-dessus. Et effectivement, la difficulté qu'il y a quand on se rapproche beaucoup plus de Dieu, c'est que nos défauts apparaissent plus. Je veux dire, c'est sûr que si la lumière est tamisée, vous avez plus de chances de paraître beau ou belle que si vous avez les spots pleine tête. On est d'accord. Après, attention, vous êtes toutes beaux, tous belles, hein. Mais pas trop de lumière. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai réfléchi là-dessus. Effectivement, l'école Kingdom Faith, vraiment que je recommande à tout le monde, je pense que Kevin l'a déjà fait avant et continuera de le faire, c'est vraiment un moment où on se rapproche de Dieu. Et en se rapprochant, plus on se rapproche de Dieu, plus finalement on en apprend sur nous-mêmes. Et c'est que ça que j'expliquais hier aussi en première partie le matin, qu'il était vraiment important de se connaître soi-même. Et je crois qu'à ce moment-là, je ne me connaissais pas encore moi-même vraiment ma profonde identité. Qui j'étais, qu'est-ce que Dieu avait mis en moi, comment il voulait que je l'utilise. Et finalement, ça fait peur. Parce que ça joue directement avec la confiance en soi, avec l'assurance qu'on a. Quand on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas ce qu'on peut donner, donc on ne se risque pas à des choses, vous voyez. Mais plus on s'approche de Dieu, plus Dieu nous montre ce qu'il attend de nous. Et il nous montre petit à petit les choses qu'il a mis en nous et il nous apprend comment les donner et il nous apprend à vraiment être sensible au Saint-Esprit pour savoir comment et quand les donner. Et ça m'a vraiment aidé à prendre de l'assurance, à me rendre compte de qui j'étais, d'accepter, j'ai des défauts comme tout le monde, mais d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à les perfectionner tous les jours. Et vraiment, ça a été une période très enrichissante sur ce plan-là, en tout cas. Et aujourd'hui, je peux dire que ça m'a complètement changé, non pas qu'en façade, mais au plus profond de l'intérieur. Et c'est là qu'il faut aller fouiller, en fait. Et un jour, quand j'étais là-bas, Dieu m'avait donné une image. Il m'avait dit, les vrais trésors, ils sont tout au fond. Vous voyez, c'est comme si vous jetez un trésor dans la mer, essayez de pas chercher les choses en surface, elles y seront pas. Il faut que vous nagiez jusqu'au fond. Des fois, il faut nager loin, des fois, il faut nager longtemps. Mais il est au fond, elle y est. Et j'ai compris que c'était dans toute chose, ça, d'ailleurs, que c'était dans la prière, que c'était dans l'adoration, que c'était dans la relation personnelle avec Dieu. Plus je pousse, plus il y a de trésors. Et plus je cherche encore au fond du trésor, plus je trombe encore sur des pépites plus grandes. Et je pense que c'est aussi une volonté de Dieu de nous encourager à chercher toujours plus loin. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Si on avait juste à claquer des doigts et c'était là, on n'aurait pas à aller chercher, on n'aurait pas à se remettre à ses pieds, on n'aurait pas à le mettre au centre de toute chose. Un simple apprentissage du monde d'aujourd'hui, ça suffirait. Mais ça, j'ai compris ça. Et donc vraiment, je sais qu'il y a des guérisons vraiment profondes qui ont été faites, notamment sur la culpabilité. Parce que dans ces moments-là, l'ennemi, de temps en temps, il ne se gêne pas pour vous rappeler vos erreurs. Il ne se gêne pas pour rappeler à qu'est-ce que vous avez fait, toujours un mauvais moment. Je vous assure, c'est vraiment étrange. Parce que même ce matin, avant de venir ici, quand j'étais assis tout seul là-bas en train de passer mon temps, il s'amusait à me rappeler des trucs pour me faire peur. Mais il a réussi à me faire peur au début. Je l'admets, il a réussi à me faire peur. J'étais pas très bien. Mais je me suis encouragé en regardant mon bracelet que Kevin m'a donné hier. Donc je te rejoins, moi aussi je l'ai. Donc, il y a écrit quoi sur le tien? Et sur le mien, il y a écrit « All things are possible ». Ah. Et de l'autre côté, j'ai vision. Ta vision aussi? Ah. Ok. Et quand, et vous voyez, c'est des petits détails tout bêtes, hein. Un petit clin d'œil de Dieu. Il me donne le bracelet hier, et là je le regarde. Je fais comme ça, je fais All things are possible. D'abord, je traduis. Toutes les choses sont possibles, tout le monde avait compris? Peut-être pas tous bilingues. Et quand j'ai vu ça, ça m'a encouragé. Vous savez à quoi je repense dans ces moments-là? Je me dis, à combien de fois Dieu est venu te sortir de tout ça? Combien de fois, quand tu as eu besoin de lui, il a été là? Et pourquoi il ne le ferait pas ce matin? Il n'y a pas de raison. Et donc j'ai dit, ok, tranquille. On y va, on se détend. Et puis vraiment, le moment de louange ce matin, il m'a encore vraiment fortifié. Et ça m'a vraiment encouragé pour vous partager ça ce matin, en tout cas. Donc voilà, si j'avais une dernière touche à dire, bah finalement, elle est écrite sur mon bracelet. All things are possible. Tout est possible. Vraiment. Et c'est ce que j'ai voulu aussi me prouver en venant ici aujourd'hui, parce que, bon, à titre informatif, je suis responsable des ados. Je fais vite. Je suis responsable des ados dans mon église. Et effectivement, j'ai pas non plus l'habitude de partager comme ça. C'est rare. Donc, c'était aussi pour moi un moyen aujourd'hui de sortir de ma zone de confort. Il fallait vraiment avoir quand même un peu d'audace et surtout de parler le matin, l'après-midi et le lendemain matin. Ça, je l'avais jamais fait. Et quoi que ça a donné, je suis content parce que j'aurais été quand même au bout. J'aurais été fidèle à Dieu, j'aurais fait confiance, même si je n'étais pas certain de tout. Et j'ai vu que j'ai été récompensé pour mon pas de foi. Parce que quoi qu'il arrive, en tout cas, je rentre chez moi, moi-même reboosté, moi-même heureux d'avoir rencontré autant de gens bien et d'avoir pu voir une église comme la vôtre. Donc voilà, tout est possible. Même les gens dehors qui ont les choses les plus particulières, ceux qui ont pu vivre les choses dans la manière dont je les ai vécues, je sais que Jésus est venu pour eux. Ceux qui vont bien, ceux qui croient tout savoir, bah, qui prennent leur temps et puis se plaisent à Dieu de les toucher un jour. Mais il y a des tas de gens qui sont comme ça, qui culpabilisent, qui sont dehors, et je pense vraiment que Dieu est venu pour eux et qu'un message de grâce est à partager en tout cas.